RFI, minuit et demi, à Goma, 23h30, à Djamena, 22h30, en temps universel.
Afrique Soir.
Bonsoir Sylvie Berruet.
Bonsoir Charlotte, bonsoir à tous. À la une, la crise dans l'est de la République démocratique du Congo. Il y a quelques instants, le président congolais Félix Tshisekedi s'est exprimé à la télévision nationale. Il affirme qu'une riposte est en cours et il appelle à la résistance. Nous appellerons Patient Ligoti. C'est officiel depuis aujourd'hui, le Mali, le Niger et le Burkina ne sont plus membres de la CEDEAO. Ces trois pays dirigés par une junte militaire ont quitté l'organisation ouest-africaine. Quelles sont les conséquences pour les ressortissants de ces trois pays? Ce sera le dossier d'Afrique Soir. Le rapport sur le rôle de la France dans la répression des mouvements indépendantistes au Cameroun entre 1945 et 1971, rapport remis hier au président Paul Biya, les auteurs confirment que la France a bien mené une guerre de décolonisation. Le football, nous reviendrons sur cette soirée de Ligue des Champions européenne et enfin musique, le rappeur franco-congolais Youssoupha vient de sortir son tout dernier album. Sa déclaration était très attendue. Le président Tshisekedi, je vous le disais, s'est exprimé il y a quelques instants sur la télévision nationale sur la crise en cours dans l'est de la République démocratique du Congo. Patient Ligoti, vous êtes en ligne pour RFI. Que faut-il retenir de ce discours ?
Bonsoir Sylvie, à Kinshasa, Félix Tshisekedi s'est adressé à la nation ce mercredi soir. Ces attaques sont une offense à notre histoire, a déclaré le président congolais. Une riposte vigoureuse et coordonnée en cours, a dit le chef de l'État de la RDC. Il a rappelé la nomination du général-major Somo Kakule au poste de gouverneur militaire du Nord Kivu, en remplacement du général-major Peter Tshirimwami, tué lors de combats. Félix Tshisekedi a insisté sur l'option diplomatique. Nous avons engagé d'importantes démarches. Nous privilégions la voie de dialogue. Le chef de l'État a appelé à la mobilisation générale. Ces combats et celui de tout un peuple, à tous, dans nos territoires, unissons nos efforts. Il a également annoncé le déclenchement d'un plan d'urgence humanitaire et exhorté la population à résister avec courage et à garder son calme. Sur le plan sécuritaire, il a assuré que des mesures ont été prises. Nous ne sommes pas restés inactifs. Le dispositif sécuritaire a été renforcé. Il a rendu un hommage appuyé aux militaires et aux combattants morts au front. Je salue le courage de nos forces armées, de nos Wazalendo, de nos casques bleus et des soldats de Samidiarsi tombés au champ d'honneur, a-t-il dit. Le président congolais a de nouveau pointé du doigt le Rwanda, dénonçant la présence des milliers de soldats rwandais sur le sol congolais et qualifiant le M23 de pantin. Il a dénoncé une violation flagrante de la Charte des Nations Unies et un affront aux valeurs universelles, a-t-il dit. La passivité frôle la complicité, a-t-il lancé. Nous nous battrons, a-t-il insisté. Et Félix Tshisekedi a aussi condamné les attaques contre les ambassades à Kinshasa avant d'annoncer des mesures économiques, notamment l'instruction donnée au gouvernement pour la réduction du train de vie des institutions, un appel au secteur privé pour soutenir l'effort de guerre. Enfin, il a lancé un appel à l'enrôlement des jeunes dans l'armée et de conclure, la RDC n'épuisera pas, je ne vous abandonnerai jamais, j'en fais ici le serment.
Merci, Patient Ligoti en direct de Kinshasa. J'ajoute que Félix Tshisekedi était par ailleurs en Angola aujourd'hui pour des consultations. C'est ce qu'a confirmé dans la soirée la médiation angolaise dans un communiqué. Celle-ci précise que le président congolais s'est rendu à Luanda aujourd'hui pour, je cite, une analyse conjointe des prochaines étapes à suivre dans le cadre du processus de Luanda, compte tenu, peut-on lire, de la situation créée par la prise de Goma par les forces rebelles. Fin de citation. Et puis, dans un communiqué, le président angolais João Lourenço, médiateur dans la crise entre Kinshasa et Kigali, a déploré, je cite, l'occupation de la ville de Goma et appelé au retrait immédiat du M23 des territoires illégalement occupés. Il réclame encore le retrait immédiat des forces de défense rwandaises du territoire congolais qui, selon lui, sont des conditions nécessaires à la convocation d'un sommet tripartite à Luanda. On en vient à présent à la situation dans l'est du pays, à Goma avec vous, Pierre Firsion, bonsoir.
Bonsoir Sylvie.
Alors le calme est revenu cet après-midi après quelques échanges de tirs ce matin en périphérie.
Oui, des tirs sporadiques qui ont cessé dans l'après-midi et ce alors que les éléments du M23 et les troupes rwandaises ont pris position dans la plupart plupart des quartiers de la ville. Les habitants ont profité de cette accalmie pour sortir et tenter de trouver de la nourriture ou pour rechercher des proches disparus. De nombreux blessés continuent d'affluer dans les hôpitaux. Les cadavres sont, eux, envoyés vers les morgues. La très grande majorité de ces victimes sont des civils, selon le CICR.
Et dans une interview à l'AFP, Vincent Kariga, l'ambassadeur itinérant du Rwanda pour la région des Grands Lacs, estime, lui, que Goma n'est pas une fin en soi.
Et l'ambassadeur d'ajouter que la progression du M23 va continuer vers le sud Kivu, à moins, ajoute-t-il, que des négociations ne soient engagées avec Kinshasa. Ces propos ne reflètent pas la position officielle du gouvernement, a réagi à RFI Alain Mukuralinda, le porte-parole adjoint du gouvernement rwandais. La prise de Goma est une affaire congolo-congolaise qu'il n'a pas à commenter, a-t-il ajouté, sans vraiment convaincre au vu des réactions de la communauté internationale. Dans ce contexte, le gouverneur du sud Kivu annonce avoir renforcé le dispositif sécuritaire dans sa capitale Bukavu et interdit toute navigation sur le lac Kivu, au regard, je cite, de la situation sécuritaire très préoccupante dans sa province.
Et justement, on va écouter le sujet de William Bassimike, car par mesure de sécurité, vous le disiez, le gouverneur de la province du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Pourouzi, vient de suspendre la navigation sur toute l'étendue du lac jusqu'à nouvel ordre. William Bassimike.
Dans ses documents, le gouverneur Jean-Jacques Pourouzi Sadiki précise que cette mesure s'applique à toutes les embarcations, qu'elles servent à pêcher ou à transporter des personnes ou des marchandises. Il justifie sa décision par la nécessité de protéger la population et d'assurer la sécurité sur les lacs Kivu dans les contextes actuels où la menace de l'ennemi persiste, selon le gouverneur. L'idée, c'est aussi de prévenir les infiltrations à travers les embarcations sur les lacs Kivu entre les villes de Bukavu et Goma. La décision du gouverneur intervient 10 jours après que le M23 ait occupé une dizaine de villes dans les territoires de Kalehe, dans la partie nord du sud Kivu. La société civile a alerté que cette présence constitue une menace pour l'aéroport national de Kavumu, situé à 33 km au nord de Bukavu, et pour la ville elle-même séparée de Goma et du Rwanda par les lacs Kivu et la rivière Ruzizi. Cependant, l'interdiction de la navigation suscite des interrogations, car les navires relient les îles du lac Kivu et Bukavu. Par ailleurs, la population de la ville se nourrit en priorité des poissons du lac. Malgré les inquiétudes, le gouverneur Pourouzi insiste sur la stricte observance de la mesure et prévient que les contrevenants seront sévèrement sanctionnés par les services d'habilité. William Bassimike, Bukavu, RFI.
Et les autorités congolaises ont condamné avec véhémence les manifestations violentes de mardi qui ont pris pour cible plusieurs ambassades et commerces de Kinshasa. Aujourd'hui, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a présenté ses regrets au pays dont les représentations diplomatiques ont été ciblées par les manifestants. Il a assuré que toutes les dispositions sécuritaires ont été prises et que les auteurs de ces actes seraient recherchés et déférés devant la justice. Aujourd'hui encore, de petits groupes ont tenté de se rassembler mais ont été rapidement dispersés par la police. Des violences que condamnent de nombreux Kinois, condamnant également le silence de la communauté internationale. Écoutez ces réactions recueillies par Alexandra Bonjon.
C'est une bonne chose de manifester sa colère parce que nos gouvernements, nos dirigeants ne font rien. Mais ce n'est pas une bonne chose de casser, de piller, ce n'est pas une bonne chose.
La communauté internationale porte des œillères. Elle sait ce qui se passe, elle le sait pertinemment. Les rapports sont là. Mais qu'est-ce qui est fait ? Rien. C'est ça qui fait mal. Et je vous dis que je suis en colère. Mais alors, une colère sérieuse. C'est pas normal. Ça fait combien d'années que ça dure ? On va nous parler des FDLR. Depuis la chute du régime d'Abiarimana, ces FDLR aujourd'hui, ils ont combien d'années ? C'est pas un argument qui tient la route.
On trouvait c'est insultant. C'est même pas choquant, mais c'est insultant de voir que la RDC, c'est un grand pays visité, connu partout, mais que tout le monde reste en silence pendant ces moments de douleur. Et ça fait trop mal.
Il y a la guerre partout dans le monde, en Ukraine et au Soudan. Mais la situation de la RDC, c'est une situation qui est banalisée par la communauté internationale. Moi, j'estime que c'est le silence qui choque. Le silence blesse les Congolais. Il faut que la communauté internationale agisse. Sinon, nous allons considérer qu'ils sont tous complices.
Voilà des réactions recueillies à Kinshasa par Alexandra Branjon. Alors on l'a dit, le M23 et l'armée rwandaise sont présents ce mercredi dans la plupart des quartiers de Goma et des faubourgs. À la mi-journée, plusieurs centaines de Roumains, instructeurs auprès des forces armées régulières et alliés selon Kinshasa ou mercenaires selon Kigali, ont traversé la frontière vers la ville rwandaise de Gizeni pour être ensuite évacués vers la Roumanie. Lucie Mouillot.
En civil et sans armes, près de 300 hommes de nationalité roumaine ont franchi à pied la grande barrière en formant plusieurs files indiennes selon les instructions des agents de sécurité rwandais. Après une fouille méthodique et un passage à l'immigration, le groupe est monté dans un convoi de bus pour prendre la route de l'aéroport international de Kigali. Dans un message posté sur le réseau social X, le ministre des Affaires étrangères rwandais, Olivier Ndungirehe, qualifie ces hommes de mercenaires recrutés par Kinshasa pour combattre auprès des FARDC et de leurs alliés. De leur côté, les autorités congolaises reconnaissent employés des sociétés militaires privées, mais seulement pour des fonctions d'instructeur auprès de leur armée. Le porte-parole adjoint du gouvernement de Kigali, Alain Mukuralinda, affirme que le groupe s'est rendu dans une base de la MONUSCO. Le gouvernement roumain a ensuite discuté avec le Rwanda de leur évacuation par la Grande Barrière, seul point de passage possible pour sortir de Goma. Lucie Mouillot, Guy Seni, RFI.
Vous écoutez Afrique Soir, 23h40 à Paris, 22h40 en temps universel. C'est désormais officiel, le Mali, le Niger et le Burkina Faso ne sont plus membres de la CEDEAO. Les trois pays de l'Alliance des États du Sahel avaient annoncé leur retrait le 28 janvier de l'an dernier. Les statuts de la CEDEAO prévoyaient un délai d'un an et depuis ce mercredi, les deux parties considèrent ce départ effectif. Des modalités de sortie devront être désormais négociées dans un communiqué diffusé ce matin. La CEDEAO offre tout de même une période de sursis aux pays de l'AES, le temps de définir ses modalités. Explication David Bachet.
Les principaux avantages continuent pour le moment de s'appliquer aux trois pays, dans l'intérêt supérieur des populations, indique la CEDEAO. Les passeports et cartes d'identité portant le logo de la CEDEAO restent valables, les droits de circulation ou d'établissement continuent de s'appliquer, les biens et services restent exemptés de droits de douane. Et cela jusqu'à nouvel ordre. Objectif, éviter une rupture brutale. La CEDEAO laisse par ailleurs 6 mois aux pays de l'AES pour revenir sur leur décision, une proposition balayée par les intéressés. Désormais, la CEDEAO et les pays de l'AES doivent négocier les formalités de retrait. Les pays de l'AES ne quittent pas l'UEMOA, la liberté de circulation des personnes et des marchandises reste donc garantie dans cet espace de 8 pays, dont la Côte d'Ivoire, le Sénégal ou le Bénin. Pour le reste, le Mali, le Niger et le Burkina ont déjà annoncé que les ressortissants de la CEDEAO pourraient entrer sans visa dans leur espace. La réciproque devra être négociée, tout comme les nouvelles règles qui s'imposeront aux citoyens de l'AES installés dans les pays de la CEDEAO, aux entreprises créées par des ressortissants de l'AES dans l'espace CEDEAO et inversement. En jeu également l'avenir des citoyens de l'AES fonctionnaires à la CEDEAO ou encore celui des programmes menés ou financés par la CEDEAO dans les trois pays.
Alors pour comprendre les enjeux de ce retrait et des négociations qui vont s'ouvrir entre la CEDEAO et les trois pays de l'Alliance des États du Sahel, Mali, Niger et Burkina, écoutons l'avocat et politologue malien Oumar Berthé, chercheur associé à l'Université de Rouen. Il était l'invité de Nicolas Sûr et il revient sur la décision de la CEDEAO de maintenir des droits pour les ressortissants de ces trois pays le temps que soient menées à bien les négociations sur les formalités de sortie.
50 années d'intégration sous-régionale, ça n'est pas rien, étant donné qu'il y avait une intégration particulièrement ancrée ces dernières années, qui s'est concrétisée notamment par la mise en place d'un passeport commun à l'ensemble des États membres et d'une carte biométrique également commune à l'ensemble des pays membres, de sorte qu'il n'y avait plus de frontières au sein des 15 pays membres. Une rupture brutale aurait pu avoir de lourdes conséquences pour les ressortissants de la CEDEAO et aussi les ressortissants des trois pays qui sont en train sortir. La raison pour laquelle la CEDEAO tente le plus possible d'atténuer les conséquences et les effets de cette sortie.
Les dispositions en matière de commerce et de circulation sont donc maintenues le temps de négociation. Quels sont les points principaux selon vous sur lesquels vont porter les négociations à venir?
Les négociations vont porter sur la libre circulation des personnes et de leurs biens et la liberté d'établissement et de résidence et sur les droits des douanes et des transits entre l'ensemble des pays de la CEDEAO et de la.
Donc c'est essentiellement avec les pays de la CEDEAO qui ne sont pas membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine que l'AES ne quitte pas pour le moment.
Les pays de l'AES s'y rendent compte évidemment que le retrait de la CEDEAO pourrait avoir de sérieuses implications raison pour laquelle elle n'a jamais parlé de la sortie de l'UEMOA, ce qui veut dire qu'elle compte sur cette disposition de l'UEMOA qui permet la liberté de circulation des personnes et de leurs biens dans les 8 pays membres et d'autre part aussi la liberté de résidence. Sauf qu'en ce qui concerne l'UEMOA, la liberté de résidence, contrairement à celle de la CEDEAO, est conditionnée à l'exercice d'une activité professionnelle. Et donc, les 3 pays de l'AIS, pour l'instant, étant donné qu'ils ne sortiront pas de l'UEMOA, ils vont bénéficier de ces droits au sein des 8 pays de l'UEMOA.
Mais pas au sein des autres, et notamment les puissances économiques que sont le Nigeria et le Ghana.
Exactement, qui ne sont pas membres de l'UEMOA.
Il y a eu des manifestations très virulentes hier contre la CEDEAO au Burkina et au Niger, pas au Mali en revanche. Pour quelles raisons selon vous?
Je pense qu'au Mali, une telle manifestation aujourd'hui n'aurait pas pu mobiliser dans les rues parce qu'en réalité, la situation au Mali, elle est complètement différente de ce qu'on a observé en 2022 lorsque les Maliens sont sortis massivement contre les sanctions imposées sur la CEDEAO. Les Maliens s'y rendent compte que les discours de panafricanisme qui a jusque-là permis de mobiliser les gens dans la rue a atteint une limite de telle sorte que les autorités ne se sont même pas hasardées à mobiliser les gens dans la rue.
Oumar Berthet, chercheur associé à l'université de Rouen. En bref, au Soudan, 7 personnes tuées, 11 autres blessées dans le bombardement d'un camp de réfugiés près d'El Fasher au Darfour Nord. Bombardement par les paramilitaires des forces de soutien rapide, les FSR. L'attaque a visé le camp d'Abou Chouk et un marché voisin. Et puis au Soudan du Sud, 20 morts dans le crash d'un avion ce matin. L'appareil s'est écrasé près de l'aéroport de l'État de l'Unité qui abrite des champs pétroliers et selon le ministère de l'Information, il y a un seul survivant. Direction le Tchad où s'est tenu le 13e congrès du Mouvement Patriotique du Salut, le MPS. C'était au Palais du 15, le Palais des Arts et de la Culture. Mahamat Idriss Déby, jusque-là président d'honneur, est désigné aujourd'hui président national du parti au pouvoir, le MPS qui a un nouveau secrétaire général. Nadia Ben Mahfoud.
Aziz Mahamat Saleh est le nouveau secrétaire général du MPS. Il est l'actuel ministre des Infrastructures et du Désenclavement, mais aussi porte-parole de la commission en charge de la gestion du départ des militaires français. Il remplace donc Mahamat Zembada, figure historique du parti, écarté pour les élections législatives du 29 décembre, lorsque l'Agence nationale de gestion des élections avait rejeté sa candidature. L'autre information, c'est la désignation à l'unanimité par la direction du parti de Mahamat Idriss Déby comme président national du MPS. Il était jusque-là président d'honneur. C'est d'ailleurs lui qui a annoncé avoir choisi Aziz Mahamat Saleh comme secrétaire général. L'implication du président au sein du MPS est critiquée par une partie de l'opposition qui évoque l'article 77 de la Constitution. Celui-ci interdit au chef de l'État d'exercer des fonctions au sein d'un parti politique. Par ailleurs, le président tchadien a salué Succès Masra, opposant et président des transformateurs, pour la main qui lui a tendue, se disant prêt à travailler avec lui. Nadia Ben Mahfoud, N'Djamena, RFI.
En Libye, 2 personnes accusées d'avoir torturé et extorqué plus de 250 migrants ont été incarcérées selon un communiqué du procureur général de Tripoli. Les victimes étaient retenues dans un camp sous contrôle de Khalifa Haftar où elles subissaient des sévices. La commission franco-camerounaise de chercheurs chargée d'analyser le rôle de la France dans la répression des mouvements indépendantistes camerounais a donc présenté hier son rapport au président Paul Biya. Les auteurs confirment que la France a bien mené une guerre de décolonisation contre les indépendantistes camerounais, marquée par des violences extrêmes. Une guerre amorcée dès 1945, elle s'est intensifiée à partir de 1955 et dont l'action se poursuit après l'indépendance formelle du Cameroun, survenue le 1er janvier 1960. Explication Florence Maurice.
L'indépendance ne constitue absolument pas une rupture nette avec la période coloniale, expliquent les auteurs du rapport. Les camps de regroupement dans lesquels ont été déplacés des centaines de milliers de personnes perdurent. Des traités bilatéraux sont négociés entre Paris et le Cameroun qui donnent un blanc-seing à l'armée française pour poursuivre ses actions répressives. Les violences atteignent même leur paroxysme selon ce rapport début 1960. En avril-mai, l'armée française se livre par exemple à des bombardements à l'aide de cartouches incendiaires. L'usage du napalm est écarté, mais les auteurs du rapport insistent, ces bombardements sont dévastateurs. Fin 1960, en novembre, la France se rend également responsable de la mort de 3 leaders indépendantistes en quelques semaines, Félix Moumier, Paul Momo et Jérémy Ndélélé. Pour décrire la relation France-Cameroun à cette époque, les auteurs évoquent une conjonction d'intérêts, une relation d'interdépendance. Le président Aïdjo, peut-on lire, met en place un régime autocratique et autoritaire avec le soutien des autorités françaises.
Le football est la grande soirée de Ligue des Champions qui vient de s'achever. 18 matchs, des rebondissements, des buts, des surprises. Bonsoir Baptiste Leduc.
Bonsoir.
Vous avez suivi tout cela en temps réel et les favoris ont été au rendez-vous ce soir.
Oui, on s'inquiétait un petit peu pour le Paris Saint-Germain et Manchester City au début de la soirée. Les deux clubs qui risquaient l'élimination, surtout Manchester City. Mais tout va bien pour les deux clubs qui verront les barrages de cette Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain a balayé Stuttgart 4-1 sans trembler et a fait un joli bond au classement. En barrage, ils retrouveront un club français, Monaco, qui a sombré à Milan, défaite 3-0 contre l'Inter, ou Brest, qui a perdu son match de gala contre le Real Madrid, de 3-0 aussi. Le tirage au sort aura lieu vendredi, on saura ça, mais en fait, on a à chaque fois deux possibilités pour tous les clubs. Pour Manchester City, c'était vraiment chaud ce soir aussi, provisoirement éliminé à la mi-temps contre Bruges. Les Citizens ont finalement gagné 3-1 et se sont qualifiés pour un barrage contre le Real Madrid ou le Bayern Munich. C'est là, il y aura un gros choc en barrage. Et la surprise du soir, elle est venue de Lille. Le club du nord de la France a humilié Feyenoord Rotterdam, 6-1. Les Lillois sont qualifiés directement pour les huitièmes de finale.
Et parmi les performances individuelles à retenir, Baptiste, hein, celle de l'attaquant guinéen Serou Guirassy.
Oui, il a marqué un doublé dans la victoire du Borussia Dortmund contre le Shakhtar Donetsk, 3-1. Et ce doublé offre à Guirassy le titre de meilleur buteur de cette phase de ligue avec 9 réalisations à égalité avec Robert Lewandowski du FC Barcelone, en bonne compagnie donc. À noter aussi le triplé d'Ousmane Dembélé avec le Paris Saint-Germain qui a porté le PSG sur ses épaules ce soir contre Stuttgart, et la performance énorme du Lillois Ossam Sarraoui aussi. Un but, une passe décisive pour le Marocain, mais surtout une implication sur presque tous les buts du festival offensif du LOSC. Cette grande victoire du LOSC porte sa patte. Finalement, l'expression festival offensif, c'est un petit peu ce qui a résumé cette soirée que vous avez vécue en direct et en intégralité sur RFI. 64 buts en 18 rencontres, ça a planté de partout ce soir.
Merci beaucoup à vous Baptiste Leduc. Afrique Echo nous emmène aujourd'hui à Bassongo, en Centrafrique, dans ce village situé à 50 km au sud-ouest de Bangui. La fabrication de l'huile de palme est une source de revenus pour de nombreux habitants, alors que la plupart en produisent de manière artisanale depuis plusieurs décennies. Une entreprise, elle, a décidé de se lancer dans de la production semi-industrielle baptisée L'Or Rouge. Elle a été créée il y a 2 ans par un groupe de producteurs natifs de Bassongo. Rolf Steve Domialeux est allé à leur rencontre.
Dans ce village traditionnellement réputé pour ses palmiers à huile, la récolte vient de commencer. À perte de vue, plusieurs milliers de palmiers avec des feuilles mûres se développent sur une superficie d'environ 100 mètres carrés. Pour couper les régimes, les ouvriers sillonnent les couloirs bien aménagés. Chérubin Léondamon, 35 ans, est le coordonnateur de ce projet qui a été mis en place par une vingtaine de jeunes de la localité.
Notre chantier compte une centaine de palmiers. Nous avons cotisé pour acheter cette plantation et installer la petite usine. Un palmier produit généralement 5 régimes. Pour produire un fût d'huile de palme, il nous faut au moins 200 régimes. Chaque mois, nous produisons 50 fûts.
Après récolte, les fouilles sont acheminées dans l'usine semi-artisanale qui se trouve au centre de la plantation. Ils sont ensuite dépulpés, malaxés et pressés dans des machines artisanales pour avoir l'huile rouge. Noël Bissafio est machiniste.
On n'a pas les moyens d'acheter des machines sophistiquées. Nous fabriquons nous-mêmes nos machines à l'aide de fûts, de bidons, de chaînes de moto et de morceaux de bois solide. Le mécanisme est simple. On verse les fruits dans le fût, puis on ajoute de l'eau. On verse ensuite les fruits dans un autre fût. Il suffit de presser les fruits jusqu'à obtenir l'huile dans cette machine appelée malaxeur.
L'huile obtenue est acheminée vers les marchés à l'aide des vélos, des pousse-pousse et des motos à 3 roues. Rubin Léondamon.
Ici, le bidon de 25 litres coûte 15 000 francs CFA et le litre coûte 1 500 francs CFA. Si on les achemine dans d'autres régions, on augmente encore le prix à 25 000 francs CFA à cause des tracasseries routières. Certains de nos clients viennent des pays voisins, par exemple du Nigeria ou du Cameroun.
Des prix attractifs pour les consommateurs locaux face aux quelques litres d'huile de palme importée. La recette mensuelle est utilisée utilisée pour payer les salaires, entretenir la plantation et les machines. Mais dans cette activité, les difficultés n'en manquent pas, selon Clarisse, l'une des productrices.
Maintenant, il nous faut avoir d'autres plantations et surtout des moyens roulants pour vendre nos produits partout en Centrafrique et au-delà de nos frontières.
La production de l'huile de palme reste la seule activité économique pour ces jeunes qui souhaitent avec le temps passer d'une production semi-artisanale à une production industrielle. Rolf Esteve Doumialeu, Bangui, RFI.
Afrique Soir, et c'est le moment de notre rendez-vous musique, et c'est avec Pierre Vallée. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Sylvie, bonsoir à tous.
Et vous nous parlez ce soir d'un artiste chevronné.
Oui, je vais vous parler ce soir de Youssoupha, qui après 3 ans de silence vient de sortir Amour Suprême, son 7e album. Youssoupha, un artiste qui a grandi à Kinshasa, puis en banlieue parisienne, où il découvre le rap avant de devenir lui-même une des figures du mouvement. Grâce notamment à une écriture à la fois subtile et puissante, pleine de références, de rimes efficace, ce qui n'est pas étonnant de la part de quelqu'un qui a fait des études littéraires à la Sorbonne.
Un disque qui se distingue des autres productions.
Oui, c'est un peu cliché de le dire, mais il casse les codes du rap. Certes, avec son débit, son flow et sa façon d'appuyer sur les mots, on est clairement dans l'univers du rap. Mais tout le reste, la musique et les textes, sortent clairement du cadre. La boîte à rythme, par exemple, n'est pas forcément omniprésente. Il y a même beaucoup de passages où elle disparaît pour faire de la place au cœur, avec des ambiances tout en douceur, plus proche de l'afrobeat nigérian et de la main piano que du rap.
Et puis ses textes hein, aussi se démarquent.
Oui, là aussi, on est loin des clichés liés au rap. On n'est pas du tout dans l'apologie du ghetto, d'une vie supposée de gangster faite de richesses superficielles, de grosses voitures et de jeunes filles peu vêtues. Au contraire, ses textes sont remarquables, vraiment de sagesse, émouvants, créatifs. Un album tout en introspection sur lequel il se livre, comme sur le titre « Dieu est grande », que nous allons écouter tout de suite, un texte féministe touchant qu'il adresse à sa fille sans jamais tomber dans la mièvrerie.
Moi je suis le genre de père un peu à l'ancienne. J'ai connu ta mère avant d'avoir une vie. J'ai eu un garçon mais dans ma tradition, la vraie bénédiction c'est d'avoir une fille. Alors ma princesse, suffit que t'apparaisses pour que le temps s'arrête, 1000 mètres à la ronde. Dieu est infini et je le remercie de m'avoir choisi pour être ton daron. Les peurs et les beaux parleurs, moralisateurs, leur cœur est minime. Ils ont cette façon de demander pardon. Pardon à Dieu et jamais aux victimes. On peut s'aimer sans toujours être d'accord. On peut s'aider même si on se connaît à peine. Si t'as des enfants, apprends-leur d'abord ce que t'aurais aimé qu'à toi on t'enseigne. Parfois le temps de la justice est trop long. Fais le bien sur terre avant de parler des cieux. Certaines croyances viennent tout droit des colons. Tu peux faire le tri pour te rapprocher de Dieu. C'est pas si grave de faire des erreurs. Ce qui est grave c'est de vouloir les ignorer. Le but c'est pas d'être la meilleure, le but c'est de chaque jour s'améliorer. Imani. T'es pas obligé d'être une fille banale, t'es pas obligé d'être Michelle Obama, t'es pas obligé de vouloir être mère, t'es pas obligé de vouloir être reine. N'écoute pas les hommes, n'écoute pas les ordres, n'écoute pas les codes qui disent de la merde. Apprends encore à aimer ton corps, à aimer tes formes, à t'aimer toi-même. On a nos valeurs et nos traditions. Si ton amoureux t'emmène en balade, dis-lui bien que c'est lui qui paiera l'addition. Dis-lui que c'est l'impôt sur le patriarcat. Tu m'idéalises, mais même ton daddy est paternaliste. Faut que tu me pardonnes, dites à ces messieurs. C'est bien prétentieux d'apprendre la vie à celle qui la donne. Imani.
Parfois le Dieu est grand, extrait du dernier album de Youssoupha. C'était le choix de Pierre Vallée ce soir pour refermer cette dernière édition d'Afrique Soir. Merci à toute l'équipe. Merci à vous pour votre fidélité à la réalisation ce soir. Jonathan Brady reste à l'écoute. L'info revient dans un peu plus d'une minute sur la radio du monde.
Tu sais qu'elles nous mentent, mais qu'elles nous répondent. Elles étaient braves, belles, élégantes. C'est pour ça que tu portes fier leur prénom. Tant que tu peux, il faut défier les lois. Tant que tu peux, il faut défier les rois. Et si te demandent que ta foi représente, réponds simplement que Dieu est grand.
RFI, la sélection du mois.
Orchestra Baobab et Idrissa Diop.
Je suis vraiment
sont défoncés, ils me disent d'arrêter d'y penser.
Andéol.
Ces temps-ci, après minuit, je dis rien de compréhensible. Le compte bancaire dans le rouge, mais genre vraiment très foncé. Comme ton rouge à lèvres, c'était peut-être un signe.
RFI Musique.
8 milliards de voisins.
Emmanuel Bastide attend vos témoignages sur le thème de demain.
Des projets de barrages aux extensions de sites industriels, partout, les mobilisations collectives et environnementales se multiplient pour l'abandon de ces projets. Mais pour quels résultats concrets ?
Contactez-nous sur notre numéro WhatsApp 337 64 45 51 41.
8 milliards de voisins.
Du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Demain,
Journée mondiale des maladies tropicales négligées.
Vendredi,
question de femmes, nous parlons des symptômes et traitements des troubles et maladies de la thyroïde.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.